Laura, étudiante ESCP en marketing et communication, je suis actuellement en stage chez Danone. Merci pour toutes ces perspectives sur comment le web transforme à la fois nos organisations, nos relations clients et nos organisations internes. Vous avez fait une superbe transition avec ma question. En fait, je suis frappée par la symétrie en fait des phénomènes entre l'interne et l'externe en entreprise, c'est-à-dire une transformation des relations clients et des modes de management dus à plus de transparence dans l'information notamment. Pour l'externe, les métiers s'organisent en marketing et en communication. On voit l'apparition du métier de community management pour gérer ses communautés de clients, donc passer de la segmentation à des communautés. En interne, on parle d'équipes qui s'organisent, des communications plus horizontales. Et je me demandais quelle est pour vous l'évolution des fonctions support, RH, communication interne. Est-ce qu'on s'oriente vers des community managers internes? Quelles compétences, quelles fonctions? Voilà.
Alors oui, le problème des communautés, c'est que très vite, on les accumule. Donc si on met un chef par communauté, il y a un moment où il faut mettre un chef des chefs. Donc ça, c'est une des grandes questions actuelles. Il y a pas mal d'entreprises aux États-Unis qui commencent à nommer des grands chefs des communautés quelque chose. Ils siègent au board. En France, il semble qu'il n'y en ait que deux dans le CAC 40 qui aient nommé un chef. Les autres parlent de filière et on anime la filière. Donc il semblerait qu'AXA, par exemple, est un chef des communautés. Et que chez France Télécom, on anime plutôt une filière large qui va avoir forcément vocation à se développer. Bon, donc voilà un petit peu ce que l'on peut observer à cet instant, à l'instant T.
Yves Darcourt, les AUMATEC. Depuis des décennies, on explique aux dirigeants que les fonctionnements intégratifs et transversaux qui font la performance collective, c'est grâce à la qualité du management. Alors là, vous inversez la perspective, vous mettez le web en première ligne comme catalyseur de ces fonctionnements collectifs. Alors, est-ce que vous ne jetez pas un peu vite le management avec l'eau du bain? Et deuxième question un peu moins radicale, comment aidez-vous vos cadres à réécrire leur rôle?
Alors on va passer à la stratégie numéro 2, prendre deux, trois questions. On prend la deuxième question, Eric Spitz.
Finalement, l'entreprise de Monsieur Lippi est une entreprise qui est aujourd'hui en minorité. Il y a des ouvriers, il y a la plupart des entreprises n'ont plus d'ouvriers. On a un profil complètement différent. Et évidemment, le problème d'amour-propre et de pouvoir est beaucoup plus subtil. Et vous avez dit plusieurs fois, pour que les gens puissent fonctionner sans oukase, il faudrait qu'il y ait des normes, il faut que ce soit quelque part organisé. Mais si on est dans une entreprise qui est un peu complexe, ces normes deviennent très vite quelque chose de complexe. Je dirais presque une bureaucratie ou technocratie, comme vous voulez, qui est difficile à comprendre. Et finalement, le système devient pas si fluide que ce qu'on peut faire, ce que vous avez décrit. Qu'est-ce que vous pensez du rôle des outils modernes de communication et de collaboration entre les gens quand il s'agit pas seulement de choses très opérationnelles, collaboration qui sont parfaitement décrites, etc., quand il s'agit finalement de trouver quelque chose qui n'était pas a priori décrit, hein, et demandé?
Oui, c'est-à-dire, dans certains cas, la matière et les règles imposent un ordre qui maintient une sorte de structure. Pierre Couvagne.
Ma remarque rejoint celle qui a été faite sur le rôle des cadres. En fait, l'organisation pyramidale des entreprises était liée à la circulation d'informations, mais pas exclusivement. En effet, le contact avec les clients, par exemple, c'était les déjeuners d'affaires autrefois. Tout le monde ne pouvait pas aller à un déjeuner d'affaires, donc il y avait des gens qui monopolisaient ça, qui monopolisaient un certain nombre de circuits, de connaissances, etc. Évidemment, tout ça a tombé, et les systèmes d'information qui existent, évidemment, poussent à un fonctionnement en réseau qui est plus efficace. Bon, ce n'est pas seulement le web qui a créé ça. Je me souviens quand j'ai pris la direction générale d'une entreprise d'exportation qui travaillait avec beaucoup de pays au début des années 80. J'ai demandé à mon prédécesseur s'il avait un conseil à me donner. Et il m'a dit, ah, vraiment, il y a une seule chose à faire. Je lis aujourd'hui tout ce qui part des Telex. Parce qu'évidemment, on travaillait avec des Telex. Et puis, je me suis aperçu qu'on venait d'inventer un nouvel engin qui était le fax. Et évidemment, tout le monde envoyait des fax dans tous les sens, au lieu d'envoyer des telex. Et évidemment, on ne contrôlait plus rien. Et puis, comme au contraire du telex, le fax ne faisait pas des copies automatiques, évidemment, on ne savait plus rien. Bon, j'ai vécu à peu près la même expérience dans une organisation internationale au début des années 2000, où on archivait soigneusement tous les courriers. Et puis, je me suis aperçu qu'en fait, ils n'arrivaient plus par les courriers que des documents routiniers ou des publicités, que tout passait par mail, et qu'il n'y avait aucun archival des mails. Donc, évidemment, avec ce système-là, tous les gens qui contrôlaient des nœuds de communication, évidemment, ont perdu leur pouvoir. Mais je me demande quand même s'il n'existe pas d'autres besoins de hiérarchie, notamment par exemple pour l'affectation des moyens financiers, parce que ça peut, à mon avis, encore aujourd'hui, difficilement se faire par réseau.
Voilà, donc vous répondez dans l'ordre où vous voulez.
Le management des gens qui ne sont pas des ouvriers, est-ce que c'est plus simple que de manager des ouvriers? C'est une question à laquelle moi personnellement j'ai pas de réponse. Les deux me paraissent assez compliqués, mais effectivement on n'engage pas du tout la même chose. Diriger des grandes organisations où il n'y a pas un seul ouvrier, où il n'y a que des bacs plus 5, au moins, c'est pas forcément trivial. Et de les faire coopérer, alors ça me paraît encore plus compliqué, parce que très probablement c'est des gens qui ont été formés à l'éducation nationale d'avant, où coopérer avec son voisin c'était tricher. Et donc, pas complètement convaincu que ce soit beaucoup plus simple de faire coopérer les gens. Et il y a quand même une chose qui est quand même très très claire, c'est que ces outils en réseau n'amènent strictement rien, si ce n'est énormément de problèmes, à une organisation bureaucratique. C'est pas vrai que ces outils amènent quoi que ce soit à une organisation qui n'est pas préparée. Et ça ne fait que révéler quelque chose qui existait, quoi, en quelque sorte. Et donc, ça c'est le problème fondamental des organisations, de la culture, comment on joue sur la culture. C'est quand même tout sauf très simple, on n'a plus trop le temps pour en parler.
Vous avez raison, on ne passe pas du mode vertical, pyramidal, qui a tout son intérêt, au mode décentralisé, réseau, en claquant des doigts et du jour au lendemain. C'est un cheminement qui est assez long, qui est fait d'expérimentation, d'erreurs, de corrections et de nouveaux essais. Je ne jette pas le management ou l'encadrement avec l'eau du bain. Je constate seulement que quand on change l'organisation, effectivement, on s'aperçoit qu'il y a un certain nombre de personnes qui sont à des nœuds de communication et qui n'ont pas de valeur ajoutée. C'est tout simplement ça, ils n'ont pas de valeur ajoutée. Et quand vous leur demandez maintenant d'apporter de la valeur, ils sont obligés d'apporter de la valeur parce que dessous, ça pousse, eh bien, ils se sentent tout à fait mal à l'aise et ils quittent le navire. C'est mon constat, je ne porte aucun jugement là-dessus. Le deuxième constat, c'est que quand ils ont quitté le navire, ça ne marche pas moins mal. Voilà, c'est tout.
Est-ce que vous aidez les cadres restants à faire évoluer leur rôle?
Effectivement, ceux qui restent, c'est pas parce qu'ils sont tordus, ils ont aussi des valeurs, mais je constate là aussi que près de leurs équipes, ils font autorité et ne sont pas assis sur les attributs du pouvoir. C'est mon constat. Comment est-ce qu'on les accompagne? C'est essentiellement formation sur les méthodos. C'est-à-dire, vous devez être le spécialiste de la méthodologie de votre métier et on les accompagne sur l'écriture de leur processus. Pour moi, le processus, ce n'est pas le frein à la performance. Le processus, ce n'est pas tuer l'initiative. Je considère le processus à partir du moment où il est le plus simple possible. Il ne s'agit pas de fabriquer des usines à gaz. Je pense que c'est comme un kata en karaté. Ça permet l'entraînement et le geste juste. Et à partir du moment où le geste est juste, eh bien, on peut improviser. On peut résoudre simplement les problèmes. On a du temps pour l'imprévu.
Sur l'allocation de ressources, qui sans doute reste une chose importante pour le management, j'ai observé quand même un certain nombre de fois où il se passait des choses en dehors de la salle de réunion. Alors, dans les systèmes politiques, ça s'appelle le lobbying, mais dans les grandes organisations, ça existe aussi. Décision n'est pas toujours prise de manière purement rationnelle et par les managers, sans intérêt, y compris croisés, en dehors de tout réseau, etc., etc.
Nous, on a une petite structure, c'est pas une multinationale avec des budgets croisés dans tous les sens, budget, instrument de pouvoir pour maintenir des équipes pléthoriques, ainsi de suite. Nous, on a un fonctionnement tout à fait direct. On demande à l'encadrement de premier niveau ce dont il a besoin pour travailler mieux sur la période suivante. Il nous fait sa liste de courses et puis on choisit nous-mêmes simplement.
Oui, bonjour, Xavier Costaz, PMP Conseil. En fait, j'aurais une petite question donc sur le web 2.0. J'ai l'impression qu'en fait, si j'ai bien compris, ça remet l'individu au centre de tous les systèmes. La petite question qui est sous-jacente, c'est est-ce que ça n'exacerbe pas l'individualisme? Et dans ce cadre, comment les sociétés peuvent tenir?
Béatrice Vacher, j'étais étonnée de ne pas entendre parler des critères d'évaluation qui me paraissent quand même au centre de tout ce qui a été abordé ici. Et comme tout le monde le sait bien, on agit en fonction des critères sur lesquels on se sent jugé, qui seraient tenus par quatre niveaux. On a beaucoup parlé de la matière, on a parlé des personnes, les ouvriers, les managers. On a assez peu parlé des normes, donc je vais essayer de lister ce que j'ai entendu. Les amis, on est évalué par les pairs, donc sur Facebook, etc. Les normes qualité. On a un peu parlé de rémunération, mais ce n'était pas très, très facile de savoir comment on rémunérait. J'ai entendu parler de l'urgence, c'est-à-dire qu'on est pris dans le quotidien et donc là on retourne à la matière. Et puis aussi le chef de meute. Et il y a quelque chose de l'ordre de la multiplication des normes et on se retrouverait dans quelque chose de technocratique, autrement, hein, mais finalement en multipliant il faut, il y a qu'à, etc. Et puis d'autres qui sont un peu l'urgence et le chef de meute, qui sont plutôt on ne peut pas, c'est impossible. C'était aussi le titre d'une séance de l'école de Paris, c'est impossible, donc nous réussirons. Quelque chose qui tient. Donc c'est ma question qui est plutôt de l'ordre de la loi, hein. Tu ne tueras point, tu ne voleras point, alors que les autres c'est des multiplications de normes. Je voulais savoir un peu votre avis, parce qu'on a assez peu parlé de cette question de l'évaluation qui me paraît centrale par rapport aux nouveaux objets.
Naïma Sayoud, j'ai une question relative au frottement. C'est-à-dire que quand il y a beaucoup de gens qui passent du temps à regarder, à lire, à s'informer, à travailler sur le web, quel en est le coût et quelles sont les conséquences en termes de surcharge ? Enfin, dans le cadre d'un projet de taille humaine, ça peut aller, mais après, pour à une autre échelle, ça risque d'être un autre souci. Et une remarque sur l'aspect organisationnel, c'est-à-dire que le système, apparemment, ça a introduit une efficience dans l'organisation, et du coup, les redondances qu'il pouvait y avoir à l'avance, au moment de la mise en place de cette organisation, se retrouvent après annulées ou remises en cause. Donc, il y a un avantage au départ, et peut-être qu'après, il peut y avoir des frottements. Et une autre question, si on va jusqu'à pousser la question un peu plus loin, est-ce que c'est pas cette question de communautarisme, ça ne va pas mettre un genre de Soviet style, c'est-à-dire que pour le management, c'est un moyen d'utiliser le communautarisme pour apporter quelque chose de fait.
On va répondre à ces trois questions, puis on prendra une dernière bordée de questions.
La question des frottements. Je n'ai pas évalué le temps passé individuellement par les uns et par les autres, on peut le faire, hein, c'est tout à fait simplissime, il suffit de le demander au système d'informatique. Et on est sur le contrôle absolument. Ce que je constate, moi, c'est qu'en un an et demi, on a toujours les mêmes tuyaux. D'ailleurs, on a des débits qui sont individuellement 3000 fois inférieurs à ce que vous pouvez avoir chez vous. Donc, ça ne permet pas de regarder la télévision sur le net toute la journée.
Ce que vous voulez dire, c'est que malgré l'utilisation que vous faites du web, vous n'êtes pas vraiment très bien servi par les services publics qui vous donnent un tout petit tuyau d'alimentation.
C'est un point, effectivement. Donc ce que je constate, c'est que je ne pense pas qu'il y ait d'overhead lié à l'utilisation, ou en tout cas à l'ouverture de l'utilisation du web. Ou s'il y en a un, il faut voir le périmètre de façon différente. Oui, les uns et les autres passent un petit peu plus de temps sur Internet, mais ça leur résout des problèmes au quotidien en quelques minutes, alors qu'ils auraient mis sans doute des heures, voire des jours, et à plusieurs, pour les résoudre. Je pense, et en tout cas c'est le pari qu'on a fait, que c'est plus efficace, en tout cas à moyen terme, d'ouvrir l'utilisation que de le restreindre. C'est le pari qu'on fait. Maintenant, j'ai peut-être pas assez de recul, et en tout cas, on n'a pas choisi de mesurer ces choses-là. C'est qu'un sentiment. Mais je vois, ici et là, des fonctionnements qui sont plus fluides et qui me permettent de penser que c'est la bonne décision. C'est peut-être pas possible partout. Il y avait peut-être un terreau chez nous qui permettait ça. Un terreau de la confiance, un terreau du respect des uns et des autres, qui fait que c'est possible. Finalement, ça peut pousser un petit peu sur la question des critères, donner plus d'autonomie à l'ensemble des individus formant l'organisation, ça n'a de sens que si le but suprême est largement partagé par l'organisation. Et ce but suprême, nous, on essaye de le construire, on va appeler ça un rêve partagé, si vous voulez. À partir du moment où on a ça et où on partage cette même valeur, eh bien, s'installe la question de la confiance, de l'évaluation des uns par les autres, du respect et du fonctionnement. C'est-à-dire qu'on va vers ce qui est le plus efficace. Quel est le rêve partagé de l'ensemble des gens qui viennent travailler chez nous, qui se lèvent tous les matins ? Il est simplissime, en tout cas pour nos ouvriers, nos employés, c'est de pouvoir habiter près de là où ils travaillent. Ça veut dire de garder nos emplois sur notre territoire. C'est tout simple, ça ne va pas chercher très très loin. Et à partir de ce moment-là, il faut se poser la question, si on veut garder nos emplois ici, plutôt que de les amener dans un premier temps en Roumanie, et puis après en Turquie, et puis après un peu plus loin, ainsi de suite, il faut qu'on soit compétitif. Donc pour être compétitif, il faut faire toujours plus et mieux pour moins cher. Pour qui ? Pour le patron. S'en fout le patron. C'est pour le client, parce que c'est lui qui paye. Et à partir de ce moment-là, à partir du moment où c'est bien compris et bien digéré par l'ensemble de l'organisation, effectivement, on peut fonctionner sur un modèle qui contrôle moins.
Trois réponses aux trois questions, très rapides. Sur les frottements, Je vous conseille d'aller sur le site, sur le e-Panthéon, vous verrez qu'il y a des morts. Il y a des gens qui sont morts. Ils sont morts de suractivité, alors surtout autour des jeux, mais des blogs, des machins, etc. Il y a vraiment qu'on poussait les limites. Donc effectivement, on peut sombrer là-dedans, il n'y a aucun doute là-dessus. Sur le web 2.0, est-ce que ça met l'utilisateur au centre? Bon, ça c'est la pub, je crois pas. Ça instaure justement la possibilité de se mettre dans des communautés, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Je parlais de sociétés de plus en plus communautaires et de moins en moins individualistes. Ou plus exactement, peut-être encore plus communautaire, parce qu'encore plus individualiste, quand tout est urgent et qu'il faut faire, parce qu'on peut plus, on n'a plus le temps, on n'a pas prévu, etc., il y a intérêt à avoir des copains. Et peut-être le summum de l'individualisme, c'est la communauté. Et puis enfin, pour Béatrice, une réponse, un petit peu à côté, mais finalement, il y a quand même une chose qui est claire pour nous, observateurs dans les organisations, c'est que la direction qui est le plus mal à l'aise avec tout ça, c'est la DRH. Et de très très loin. Sans doute que la question des évaluations est centrale.
Alors, trois dernières questions. Jean-Michel Yolin.
Oui, il est souvent intéressant de passer un peu aux limites et donc, par exemple, de prendre un monde où la règle, c'est « tu tueras bien », dire le monde militaire. Et actuellement, on voit un match extrêmement intéressant entre deux systèmes, un système très hiérarchique avec de très hautes technologies, d'immenses compétences, et puis en face, ils sont affrontés à l'AQMS, c'est-à-dire c'est votre méthode de gestion, l'Al-Qaïda Management System. C'est-à-dire vous avez un patron qui a une vision, et derrière, c'est des initiatives adaptées au terrain qui permettent de conduire l'action. Bon, ça serait peut-être intéressant, évidemment c'est un peu aux limites, mais de voir comment le système se transpose dans cet environnement-là.
Jean-Baptiste Tuclic. Dans les organisations bureaucratiques, ces outils n'apportent rien. Dans les grandes organisations, ce sont souvent des organisations ultra compétitives où les gens n'ont pas le temps et effectivement pas forcément intérêt à collaborer. Or, dans ces grandes organisations, on voit plein de projets de RSE, de réseaux sociaux d'entreprise. Donc, est-ce que ça veut dire que dans ces milieux ultra compétitifs, il faudrait leur dire tout de suite tous vos projets de mise en réseau par des outils web 2.0, mettez-les à la poubelle parce que ça va vous servir à rien? Ou est-ce qu'on peut garder espoir qu'il y ait une culture qui s'installe de la collaboration par ce genre d'outils?
Dernière question.
Jacqueline Deray, expert judiciaire. Je voulais demander à monsieur s'il ne craignait pas pour son entreprise que le savoir-faire puisse être piraté. Est-ce que l'avantage du partage est supérieur au risque?
Voilà. Al-Qaïda, le piratage et les réseaux, malgré tout, chez les gens suroccupés.
Pour Al-Qaïda, c'est chapitre 3. Vraiment, il y a différentes choses tout à fait intéressantes. Sur l'entreprise, les grandes entreprises ultra compétitives à l'intérieur, dans lesquelles il y a effectivement énormément de projets baptisés, collaboratifs, il y a tout un tas d'outils. Alors moi, quand on les a interviewés au début du web 2.0, mais d'abord, je ne savais pas ce que c'était. Ça a mis plusieurs années avant de savoir ce que c'était. En fait, il a fallu attendre qu'IBM et Microsoft aient un avis sur la question et reviennent avec des outils estampillés 2.0 pour qu'on lance ces projets. Je dois finir mon idée ou pas? Bon, est-ce que ces outils sont 2.0? Oui, c'est de la bureautique 2.0, mais c'est encore de la bureautique. C'est centré autour du document, pas de la contribution, etc. Est-ce que ces gens-là doivent arrêter tout de suite? Bon, ça serait évidemment extrêmement présomptueux pour moi de le dire. En fait, la vraie question, c'est est-ce que l'entreprise a besoin de 2.0 ou pas? Si elle a besoin d'être 2.0, ces outils-là risquent de ne pas les aider. S'ils n'en ont pas besoin, s'ils ont décidé de rester bureaucratiques, il ne faut surtout pas utiliser ces outils-là, ils sont extrêmement subversifs. Ça serait ma réponse.
Pour Al-Qaïda, les règles s'appliquent aussi dans notre entreprise, et particulièrement les règles de la gestion. Si on a plus de coûts que de chiffre d'affaires, à un moment donné, ça ne se passe pas très bien. Et tout ça, ça s'applique aussi. Mais pourquoi pas? Les grandes entreprises, est-ce que les grandes entreprises seraient dans des environnements tellement plus compétitifs que les petites? La compétitivité, elle se joue entre acteurs de la même taille. Et nous, on est des petits acteurs et on pense que dans notre environnement, c'est aussi ultra compétitif, mais avec des niveaux de maturité qui sont tout à fait différents. Quoique, parce que vous le savez sans doute, et peut-être même mieux que moi, dans les grandes entreprises, c'est pas monolithique. C'est souvent des myriades de PME et qui fonctionnent plus ou moins bien, et qui sont plus ou moins compétitives et qui sont vraisemblablement et dont les expériences des entités ne sont pas forcément reproductibles. Maintenant, les gens qui sont suroccupés, bah, ils gagneraient à gérer leur agenda, la première chose, à gérer leur temps et après à s'ouvrir à la collaboration parce que peut-être que la solution est dans la collaboration. La dernière question, le savoir-faire piraté. Piraté par qui ? Par Al-Qaïda, mais on est déjà Al-Qaïda. Encore une fois, ce sont que des paris. Moi, j'ai très très peu de recul. Maintenant, le projet a 2 ans. Mais ce que j'ai observé, c'est que ceux qui font le plus attention à la diffusion du savoir-faire, c'est les ouvriers. Eux, ils savent ce que c'est un tour de main, et ils savent bien ce qui fait la différence entre un bon tour de main et un mauvais tour de main. Et donc, ils sont très 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 vigilants à ne pas diffuser des choses qu'ils savent être notre avantage compétitif. Donc non, je ne crains pas le piratage. On sait ce qu'on diffuse quand même, hein. On sait ce qu'on diffuse et on sait qui nous suit. Ça permet aussi de diffuser les informations qu'on veut diffuser.
Voilà, on va être obligé d'arrêter maintenant. Et on peut continuer la discussion au buffet. Merci.